Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on écoute Vie et déclin d'une famille marchande, une création de Marie Maréchal. Et je vous laisse avec une citation de Henry Ford. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.
Mesdames et messieurs, bonjour. Enfin, bonsoir et bienvenue. Oui, bienvenue.
Papa est mort.
Papa est mort.
Papa est mort. C'est ce qu'ils ont dit.
Papa est mort. Papa est mort.
Moi, je me tenais là. Je me suis toujours tenue là, tout près du père qui n'était pas le mien. Mais comme l'avait dit la jeune fille du père, il était important de rester soudé. Oui, soudé.
Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes ici rassemblés pour célébrer la mémoire d'Eugène Moreau, disparu tragiquement. Mes plus sincères condoléances vont à son épouse ainsi qu'à ses trois enfants. Face à l'appel de Dieu, nous ne savons rien. En définitive, personne ne sait rien. Et pourtant, face au vide que nous ressentons tous, il convient de dire quelque chose.
La jeune fille était alors montée sur l'autel. Elle avait dit quelque chose qui exprimait, je crois, la différence entre le rêve et la réalité.
J'ai fait ce rêve un peu étrange.
Cela avait été assez confus, mais aussi très courageux.
Je marchais avec mon père dans la forêt. On arrive dans une clairière. Je m'arrête au bord de l'étang. Et je sens mon père qui me lâche la main et qui rentre dans l'eau. Il fait un léger remous. Il se fond dans cet étang. Et je le vois prendre cette couleur dorée jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et c'est le calme.
Le fils cadet s'était lui aussi avancé pour dire quelques mots. Son corps donnait l'impression de s'acquitter d'une corvée un peu désagréable, comme quand quelqu'un descend les poubelles, vous voyez ?
Généreux.
Certains disaient que c'était l'émotion, mais moi je savais que ce n'était pas ça.
Droit.
L'émotion.
Quelqu'un qui savait...
Puisqu'il avait été le médecin du père.
Prendre les décisions.
Il avait donc travaillé au contraire, à l'absence d'émotion, pour pouvoir, surtout sur la
quand
fin...
Il fallait.
...exercer son métier à l'attention de son père.
Quelqu'un qui nous a guidés.
Peut-être.
Ce n'était pas qu'un
l'avait-il patron. L'avait-il aidé à...
C'était un
partir, comme on dit. Le fils aîné s'était ensuite levé un peu brutalement et s'était lancé dans l'une de ses dernières anecdotes de travail.
Voilà.
À cette époque, le fils aîné travaillait au rayon fruits et légumes d'un supermarché. Et récemment, le gérant du magasin lui avait dit que... Enfin, bon, voilà, ce ne serait plus possible. Bon, après tout, le fils aîné s'était endormi devant le magasin, sous le regard des passants, comme un clochard avec sur lui la chemise du magasin. Au fond, avait rajouté le gérant, on sentait bien qu'il n'avait pas foi dans le fruit et légumes.
Donc, ouais, voilà, bah...
Nous avions ensuite regagné la maison, devenue par la force des choses, la propriété exclusive de la mère.
Je suis vraiment dépassée.
Ça va aller, maman.
Hervé, le comptable du père, était là. Lui aussi. Lui qui travaillait depuis bien plus longtemps que moi pour le père. Hervé avait été très affecté par cette disparition. Un peu plus tard, il avait dit qu'il ne voyait plus en son métier un métier d'avenir.
D'ailleurs, il faut être un peu masochiste aujourd'hui pour faire ça.
C'est sans doute pour cette raison que la soirée s'était achevée sur une note un peu étrange. Je dirais même un peu triste. Ce qui était finalement assez logique au vu des circonstances. Avec la mort du père, se posait aussi la question de cette petite entreprise de restauration collective qui avait été si longtemps la sienne. D'autant que, depuis quelque temps, un phénomène étrange s'y était propagé. De plus en plus de salariés tombaient malades, sans que l'on puisse clairement en identifier la cause. Ce n'était pas seulement les corps des salariés qui étaient malades.
En plus, au niveau financier.
Mais aussi leur âme.
L'entreprise ne va pas si bien que ça. Elle ne va même pas bien du tout. Ce n'est plus envisageable de continuer dans ces conditions. Ce serait même une forme de suicide un peu lent et aussi tout à fait absurde.
Ça veut dire quoi, ça? On peut pas continuer comme ça, comme ça.
C'est la faillite, quoi. Voilà.
Après ça, il y avait une sorte de flou sur la manière de s'y prendre, afin d'envisager sereinement la succession du père, qui n'était plus celui de personne. Finalement, la solution provisoire à ce problème avait été d'éviter d'aborder ce problème. Comme en politique, ironisait-on. Comme en politique.
C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi.
C'est dans ce contexte si particulier que la jeune fille...
Ce qu'on traverse aujourd'hui est sans doute passager.
...avait pris la parole.
On l'espère.
Mais on ne doit pas oublier ce que papa a fait pour nous. Pour nous faire vivre. Je dirais... presque dans un esprit de sacrifice.
On n'exagère pas. Ouais, enfin.
Aujourd'hui, je vois aussi tous ces grands changements, un peu partout dans notre monde. Mais nous nous sommes trompés en disant que le travail ne serait bientôt plus rien, que partout des machines nous remplaceraient et nous dispenseraient de corvée pour le restant de nos jours. Car le travail est au fond de nous. Même avec la machine, même avec l'ordinateur et même avec Dieu sait quoi demain, le travail... est aussi vital que l'air que nous respirons.
T'as jamais travaillé de ta vie.
Et cela n'est pas une fatalité, je crois. Si seulement nous trouvons notre manière de faire, une manière que personne ne nous impose.
Voilà, c'est pas ce que t'es en train de faire.
Aujourd'hui, je crois que le plus important pour nous est de nous retrouver.
Comment ça ?
Assumer nos origines et notre destinée, en accord avec le sens que nous voulons donner à nos vies. C'est ce que nous voulons tous ici, je crois. Choisir dans quel monde nous voulons réellement vivre. Bon appétit.
Merci.
Tu débloques complètement, ma fille.
Malgré que cette tâche semblait insurmontable, avait-elle dit, elle souhaitait se sacrifier pour honorer la mémoire de son père et ainsi reprendre les rênes de l'entreprise. Même si ce n'était pas exactement de père en fils, avait-elle ajouté. Tout le monde avait été un peu stupéfait par cette proposition. Surtout en raison de son jeune âge, qui la rendait peut-être inconsciente des risques. D'autant que la jeune fille n'avait aucune compétence de gestion, ni même plus largement la fibre commerciale, comme on dit parfois. Ce qui nourrissait logiquement certaines inquiétudes. Pendant quelques mois, la jeune fille s'était intéressée à toutes sortes de techniques de management, et notamment à une philosophie au nom un peu compliqué qui exprimait, je crois, « changement pour un mieux ». Cela apparemment venait du Japon et consistait à réduire les temps morts et les surfaces perdues. C'était à se demander d'où les venaient toutes ces idées. Et les mois suivants, de nombreuses améliorations s'étaient bien produites, allant même au-delà de toute espérance.
Moi, je suis quand même déçue. Voilà.
Maman, c'est pas possible. La production de repas chauds est orientée vers les particuliers et les domiciles. Or, aujourd'hui, on doit diversifier nos réseaux clients, restructurer la filière froide et uniformiser nos process de distribution.
Je comprends rien.
Un menu unique par jour, mais
distribué... Je comprends rien.
Un menu unique par jour, mais distribué en plus grande quantité pour réaliser des économies d'échelle.
Mais pourquoi ?
Parce que le porte-à-porte, c'est dépassé, maman. Tu le sais bien, quand même, le monde a changé.
Mais je vous parle de tradition, moi.
Bon, évidemment, ça se fera pas du jour au lendemain.
Hervé, dis quelque chose. Hervé.
Oui, je ne sais pas.
Et puis, ça demandera à terme de multiplier le personnel par 3, hein, Hervé ?
Oui, enfin, bon, environ.
Et former nos ouvriers en allotissement et déconditionnement, voilà.
C'est quoi ça, Hervé ?
Ah, ça, c'est... comment dire, ça ? En gros, hein, c'est une chaîne par ingrédient qui est reconditionnée. Enfin, c'est-à-dire servie sur place en barquette thermoformée et puis en plateau repas.
Ah, et on pense aussi s'ouvrir sur le bio. Voilà.
Un peu plus tard, avec les besoins inédits en personnel, le fils aîné avait été promu au rang de manager de proximité, une sorte de responsable d'équipe. Ce qui, étonnamment, lui convenait très bien.
L'important, c'est de communiquer. Hein ?
Ouais.
Il peut y avoir des incompréhensions, mais on doit toujours rester connecté.
Ouais.
Moi, je suis là pour travailler avec vous, hein ? Pas contre vous.
Super, alors.
Il faut qu'aucun de nous se sente mal à l'aise. Parce que si l'un de nous est mal à l'aise, tout le monde est mal à l'aise.
Ouais.
Et si tout le monde est mal à l'aise, ben moi, je suis mal à l'aise. OK ?
La nouvelle entreprise allait maintenant de mieux en mieux. Grâce à des mesures économiques particulièrement favorables, la jeune fille avait pu poursuivre son étonnant plan de développement et apprendre à aimer son entreprise. À l'aimer au point de se confondre avec elle. Si bien que nous ne savions plus toujours dire qui commandait l'autre.
Hervé ! Entre les deux postes d'allotissement, les déplacements représentent toujours quasiment 85% du temps de production.
85%.
On a essayé toutes les dispositions possibles. On n'arrive pas à faire moins de 443 mètres par déplacement, soit 681 pas.
Ah ouais, 85% de déplacement, c'est 85% de temps perdu, quoi.
Ouais, 85, 84%.
Mais s'il n'y avait pas la rambarde, là ?
La quoi ?
Je dis, s'il n'y avait pas la rambarde, là ! Ouais, elle sert à rien, là, cette rambarde !
C'est-à-dire qu'elle évite les croisements ! Si on enlève la rambarde, il y a un risque de croisement !
Ouais, et alors ?
Là, avec les chariots, il pourrait y avoir des collisions !
Ouais, mais pas si on met une butée ! Faut mettre une butée ! Si on met une butée au sol, les chariots, ils restent dans l'axe, à l'aller, mais les ouvriers, ben... passer à travers au retour.
Ouais, on pourrait gagner 80 cm.
Au moins, ouais.
Oui, 85 peut-être.
Allez, ok, c'est bon, on enlève.
Hervé !
Un jour,
il faudrait...
une salariée de l'entreprise était venue voir le fils cadet médecin.
Bonjour, docteur.
Est-ce que je peux voir vos mains, Madame Allouet ?
Ouais. Voilà.
Mm-hmm.
Sur la ligne
C'est 27 barquettes à la minute, alors.
Elles sont dans cet état depuis longtemps.
Oui.
Vous ne mettez pas de gants?
Non. Si, parfois, mais j'ai des trop petites mains, alors ça accroche pas la peau, alors. Et puis, il faut aller vite.
On vous demande d'aller vite?
Non. Mais moi, je vais vite. Je suis comme ça dans la vie aussi. Et puis, si je fais vite, je me sens libre. Je pense plus, alors je sens plus.
Qu'est-ce que vous sentez plus?
La douleur. Par moments, vous voyez, je suis carrément bloquée. Je peux plus bouger la tête ni les épaules. Au point que, une fois, j'ai dû aller à l'hôpital. Et j'ai aussi eu un traitement, une fois, avec de la morphine, qui a fait passer la douleur.
C'est pour les calmants que vous venez?
Oui, parce que sinon, je peux pas dormir, vous voyez.
Ce genre de médicaments génère de la dépendance, vous comprenez?
Une année était passée depuis la mort du père, et nous avions décidé de célébrer l'événement, si je peux dire, chez la mère. C'était une manière d'oublier le reste en se souvenant de lui, une manière de se souvenir de lui en parlant du reste.
Ah là. Ah, votre père aurait été tellement fier de vous.
Oh. Ça, je ne sais pas.
De nous tous, je crois, maman.
C'est vous qui le dites.
Vous savez, ma volonté était d'honorer papa à ma manière. Mm-hmm. Et quand je vois ce qu'on a réalisé aujourd'hui, et non seulement on a sauvé l'entreprise, on a sauvé des emplois, on a sauvé des familles, mais en plus, on a contrôlé la réalité, quoi.
Oh, vraiment ?
On l'a contrôlée et conquise parce qu'on a réussi à s'adapter aux défis de notre temps. Et je tenais aussi à remercier Hervé qui m'a toujours soutenue dans les moments difficiles. Merci Hervé. Un discours.
Pardon, j'ai pas l'habitude des discours, mais non, au fond. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, on l'a prouvé, hein. On peut plus séparer le développement des hommes d'un côté et le travail de l'autre, quoi. Notre travail est devenu une réflexion profonde sur ce qu'on est réellement et sur ce qu'on pourrait être potentiellement. Par exemple, dans la vie, bon, on sait tous qu'il y a des bonnes personnes et aussi des très bonnes personnes. Et bon, généralement, les bonnes personnes, elles veulent devenir des très bonnes personnes. C'est la nature, c'est le progrès. Eh bien, dans l'entreprise, c'est la même chose. Donc moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est comment on devient encore une meilleure personne. Comprendre et saisir ce petit truc-là, hein, qui fait, eh bien, tout simplement, toute la différence. Et c'est, je pense, ce qui rend notre travail moins mécanique et aussi plus humain.
C'est à partir de ce moment-là que le fils aîné avait commencé à se réfugier dans certaines lectures que d'aucuns jugeaient subversives. Il s'agissait d'un petit livre noir qui, disait-il, avait changé sa vie. Depuis, il parlait sans cesse de référendum d'initiative populaire et d'abolition du pouvoir d'État.
Ah bah ça tombe bien que je te croie, je voulais te dire. À propos des chariots là que vous laissez tous les soirs à la cantine, ça serait mieux de les mettre dans le hangar.
Hervé ?
Ouais.
Je crois que tu te rends pas bien compte, là, en fait. Mais moi, j'y suis sur le terrain, je le vois. Avec la réduction des temps morts, là, les mecs, ils s'en sortent plus. Sans marcher ni se baisser, c'est mouvement sur mouvement. Et c'est toujours, toujours, toujours plus vite. Ils sont à la limite de la résistance physique, Hervé.
Attends. S'ils se baissent plus et qu'ils se déplacent moins, c'est moins pénible, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai faux ? C'est moins pénible, oui ou non ?
Sauf que ça augmente les cadences !
Ah, non mais attends, tu crois pas que
t'exagères ? Prends un sportif de haut niveau.
Attends, qu'est-ce que ça a à voir ?
C'est son but. Il fait ça. C'est la performance. C'est repousser ses limites. Nous, là, maintenant, dans l'entreprise, on est là-dedans. Repousser ses limites. Sauf que ici, personne n'est entouré de coach ou de kiné, putain. Il y a de plus en plus de fractures, de tendinites, d'accidents. Au point où on en est, c'est de la dope qu'il faudra. Même les cyclistes, ils se tapent pas le Mont Ventoux tous les jours. Et puis eux, ils sont pas au SMIC.
Si tu te fais virer d'ici, tu pourras toujours devenir coach sportif.
Pauvre con.
Docteur, mais si j'en prends moins, je fais des rêves bizarres.
Vous pouvez m'expliquer, Madame Allouet ?
Ben, c'est... Comment je peux vous expliquer ? C'est comme au travail. Je vais vite. J'ai des bras mécaniques, comme une machine, vous voyez ? Sauf que, bon, je remplis pas des barquettes, mais je coupe de l'argent.
De l'argent ?
J'ai ma tête dessus. C'est comme se couper soi-même. Je dois être forte à l'intérieur pour supporter et aller plus vite. Mais alors, quelqu'un dit doucement, doucement. Moi, j'essaie d'expliquer. C'est pas possible, mais les mots sortent trop vite. Ils se mélangent. C'est comme ça souvent qu'on dit ça y est, encore l'hystérique de service. Hein. J'ai l'impression de devenir folle, vous voyez. Ça chauffe dans la tête des fois. Je me réveille, j'ai envie de me faire du mal. Puis alors, je me dis non, c'est pas un problème de compétence, je fais bien mon travail, que moi je vaux quand même quelque chose, vous voyez. Puis alors, j'ai de l'expérience.
Madame Allouet.
Je vaux quand même quelque chose.
Madame Allouet, depuis combien de temps vous tremblez comme ça ?
Au fond, c'est peut-être ça le travail, avait-elle dit. Plus une usine, plus une famille, mais une machine. À changer les gens.
Vous vous rendez pas compte de ce que vous leur demandez ?
Est-ce que c'est parce que l'entreprise est mal organisée ? C'est
parce que avec eux,
on n'a pas l'impression.
Parce que si les gens, ils arrivent pas à mettre un petit peu de liant ou de fun dans leur
parce
travail.
Parce que c'est du fun pour toi. Le sous-effectif organisé et les beaux discours sur la cohésion du groupe, c'est du fun.
Et parce que tu crois que c'est simple pour moi ? Tu crois vraiment que je suis la grande méchante qui terrorise tous les petits gentils ? Mais réveille-toi ! Le monde n'est pas aussi simple, le monde n'est pas aussi terrifiant ! On a choisi de grandir ensemble ! Et grandir aujourd'hui, c'est aussi grandir demain !
Mais c'est la guerre, en fait !
Non mais attendez, c'est un règlement de compte, là,
mais
ou quoi ?
Mais non, pas du tout !
Quand même un peu, là, je...
Excuse-moi, Hervé, mais si tu pouvais nous laisser régler ce truc en famille pour une fois, ça serait sympa !
Oh, monsieur, l'anarcho-syndicaliste a parlé.
Arrêtez, rasseyez-vous, c'est ridicule !
Non mais je rêve, là !
T'as entendu ce que je viens de dire ?
Mais tu me touches pas comme ça !
C'est quoi ton problème ?
Tu me touches pas comme ça !
Arrêtez, merde ! Oh ! Dégage ! Sors de là ! Sors de là, je veux plus te voir !
Lâche-moi !
Très bien.
Mais lâche ma cravate !
Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un près de moi, s'il vous plaît ?
Maman ?
Maman ?
Maman, qu'est-ce qui se passe ?
Maman ?
Maman ? Réponds !
Maman !
Quelques semaines plus tard, la jeune fille avait décidé d'organiser pour les salariés de son entreprise une sorte de grand rassemblement qui avait été un véritable moment d'échange et de partage. Et même, avait-on dit, de fraternité.
Vous m'entendez ? Le micro fonctionne ? Merci d'être venus si nombreux ce soir à notre grand rassemblement malgré le stress et les difficultés actuelles. Ce soir, nous allons nous écouter pour pouvoir parler de ce qui va et peut-être aussi de ce qui va moins bien. S'écouter soi et surtout écouter les autres. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons réussi à instaurer un climat de confiance sans aucun tabou. Je vous invite donc à poser toutes les questions qui vous passent par la tête de manière franche et directe. Alors, qui se lance ?
Si je puis me permettre...
Micro pour Madame Allouet.
Attendez, je vais vous passer le micro.
Alors, voilà.
Ah !
Qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi. Oui. C'est juste dans la salle de pause, si on pouvait installer une machine à café avec des prix raisonnables et peut-être aussi un petit frigo pour le personnel, ce serait peut-être plus chaleureux, voilà.
Oui, tout à fait. Merci, c'est noté. D'ailleurs, pour rebondir sur cette idée, je pense qu'il serait bon d'aménager quelques moments de détente.
Oui. Ce serait plutôt Monsieur Hervé, rapport au 13e mois qui nous avait été promis.
Alors, avant de parler du 13e mois,
Bon, pardon. Oui, donc je disais, avant de parler du 13e mois, je voudrais, moi, personnellement, parler d'abord des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, quand il y a un surplus d'activité, bon, je les paie. C'est normal, ça nous fait perdre de l'argent, mais c'est normal. Par contre, payer des heures supplémentaires parce qu'on est mal organisé, ça, c'est pas normal. Alors, pour ce qui est du 13e mois, hein, ben demain, si vous voulez, vraiment, mais je vous le donne, moi, votre 13e mois. Pas de problème. C'est-à-dire que je prends votre salaire annuel et je le coupe en 13.
Oui, c'est peut-être à réfléchir tout de même.
Voilà, non, mais blague à part. Simplement, aujourd'hui, l'entreprise ne peut pas se permettre.
Voilà.
Mais c'était une très bonne question, ça, hein, madame Alloué.
Bon, bah, cette journée s'est plutôt bien passée.
Oui, 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 oui. Mais je pense qu'à partir de maintenant, il faut oublier les salariés en difficulté. Enfin, si on veut encore progresser, hein, on doit se concentrer sur les bons et les très bons éléments. Pour qu'ils deviennent encore meilleurs, je veux dire. Pour le moment, ça représente, disons, 15% de nos salariés qui ont ce quelque chose en plus, là, qu'on ignore, ce, hein, cette démarche de conquête.
Ah oui.
Et c'est ça qu'il faut comprendre, pour pouvoir le transposer chez les autres et viser les 30%.
Je sais pas, Hervé, j'ai des doutes, tout d'un coup.
Pourquoi ?
Oh, je me sens pas très bien.
Ça va ?
Je crois que je vais vomir.
C'est à partir de ce moment que la jeune fille n'avait plus vraiment été la même. Non, plus vraiment. Finalement, Madame Alloué avait accepté de prendre quelques jours de congé maladie. À son retour au travail, elle avait toutefois retrouvé son casier vide. Il avait fallu faire de la place, avait-on dit, pour la remplaçante. Sa remplaçante travaillait aussi très vite et très bien. Et il faudrait s'adapter, avait-on dit.
Changer pour un mieux.
Puis, on lui avait donné un seau et un balai. C'était...
à prendre ou à laisser.
Le lendemain, Madame Alloué avait ouvert la fenêtre et fumé une cigarette avant de se jeter dans le vide. Beaucoup avaient dit qu'ils ne comprenaient pas. On avait aussi rappelé qu'elle était mariée et mère de deux enfants. Certains avaient avancé des problèmes d'alcool, d'autres de dépression. J'avais dit que pour moi, ce n'était pas une raison. À la suite de la disparition accidentelle, brutale et tragique de Madame Alloué, une cellule psychologique avait été mise sur pied. Et celles et ceux qui en éprouvaient le besoin avaient été reçus dans les meilleurs délais.
C'est une blague. C'est quoi cette histoire de médiation ?
Ça vient de la cellule psychologique.
Quoi ?
Oui. Même les syndicats ont donné leur feu vert.
Cette nuit, j'ai fait un rêve étrange. Je suis médecin comme mon frère. Je dois soigner tous ces gens. Et en même temps, j'ai toutes ces obligations que j'ai dans la réalité. C'est très étrange et humainement impossible. Et je me réveille toujours avec cette grande sensation d'inaptitude et d'inutilité.
Qu'est-ce qu'elle raconte ?
Depuis quelques jours, notre sœur est prise de confusion. Avec peut-être un sentiment de déréalisation, voire de paranoïa situationnelle.
Qu'est-ce que c'est que ce charabia ?
Il y a eu beaucoup de tensions à gérer ces derniers jours. C'est compréhensible. Et puis les journalistes.
Ah, les journalistes.
Après, je crois que votre fille voudrait, in fine, donner son entreprise à ses salariés.
Alors d'abord,
pour, enfin,
ce n'est pas son entreprise.
C'est-à-dire qu'en prenant la succession de votre mari, votre fille est devenue de facto l'actionnaire majoritaire.
De facto. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je peux vous dire qu'il faudra me passer sur le corps avant de donner un copec à qui que ce soit.
L'idée d'offrir l'entreprise à ceux qui s'en servent, c'est pas totalement dépourvu d'intérêt.
Pas dépourvu d'intérêt ! Et quand l'entreprise sera transformée en camp hippie, tu trouveras ça pas dépourvu d'intérêt, peut-être.
Je t'assure, maman, nous sommes très loin d'un
et
camp
moi,
hippie.
Et moi, je crois que vous êtes très loin de vous-même. Votre père a construit cette entreprise brique à brique. Et aujourd'hui, vous voulez tout remettre en question avec je ne sais quelle intuition à propos du bonheur de gens qui ne vous ont rien demandé. Mais quel bonheur ? C'est quoi le bonheur ? Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition du bonheur ? Non ? Personne ? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça n'existe pas, le bonheur. Le bonheur, c'est une imposture. Les hommes et les femmes sont tels qu'ils sont, et croyez-moi, les hommes et les femmes sont tristes, extrêmement tristes, et ça n'est pas prêt de changer.
Finalement, la totalité de l'entreprise avait bien été léguée à l'ensemble des travailleurs. La jeune fille, elle, était partie faire un grand voyage. Et rien ne laissait suggérer qu'elle reviendrait un jour. La mère s'était enfoncée dans une forme de mutisme assez profond. Elle avait été internée dans un établissement spécialisé par le fiscat des médecins qui, lui aussi, avait décidé de prendre certaines distances au vu de la situation. Enthousiasmé par la tournure des événements, le fils aîné Xavier était devenu quant à lui une sorte de leader dans la nouvelle organisation de l'entreprise. Hervé, le comptable, était finalement resté pour tenter, avait-il dit, de maintenir le navire à flot.
C'est le début d'une nouvelle ère.
Ça reste à voir.
Trois autres salariés avaient aussi manifesté leur intérêt pour ce grand mouvement de transformation.
Bonjour tout le monde.
Je suis très heureuse de participer à ce mouvement collectif de transformation.
Je crois qu'ici tout le monde me connaît. Hein. Pas besoin de m'étendre sur les présentations.
Et puis... moi, qui au vu de cette effervescence avait pris aussi,
un changement.
La première fois, certaines responsabilités.
Donc ça veut dire que le patron, c'est nous ?
Moi, ça me dépasse.
Non mais ils y croient, vraiment. C'est dingue.
Franchement, diriger une entreprise, c'est comme partir en voyage organisé sur Mars.
On va pas tous, tout le temps, tout décider.
Ah bah
ça,
si,
on pourrait peut-être commencer par, je sais pas moi, lister nos priorités pour éviter l'anarchie.
L'anarchie est très organisée, contrairement à ce qu'on croit.
On devrait peut-être y aller petit à petit.
Bah, si vous changez le monde autour, il va pas changer.
C'est vrai, il faut aussi penser à rester rentable.
Ah mais non, justement, Marie-Ève, c'est l'occasion de repenser cette logique unilatérale.
Attends, une entreprise, Xavier, elle a besoin de capitaux. Et les gens qui procurent ça, ils font pas ça gratis.
Comment ça ? Il faut payer l'argent.
Bah ouais, c'est le principe du capitalisme financier. Figure-toi.
Non mais à défaut de changer le monde, on pourrait peut-être commencer par changer d'univers. Je veux dire localement.
Changer d'univers localement, je comprends pas, tu peux préciser ?
Non, excusez-moi, mais alors, si tout le monde donne tout le temps son avis personnel, on va vraiment jamais avancer. Peut-être qu'on pourrait instaurer un tour de parole.
Okay. C'est une bonne idée.
Si vous êtes d'accord, hein, je voulais pas m'imposer.
Oui, c'est une bonne idée.
Alors peut-être la personne qui veut parler en premier, prend le micro.
Je voudrais justement profiter pour en parler.
Non mais attendez, pas tous à la fois. Marie-Ève, je crois, avait parlé en premier.
Voilà. Je continue ?
Oui,
je continue alors.
Oui.
Alors je continue. Je m'excuse de revenir sur des choses un peu plus terre à terre, mais au service commande pour dispatcher les livraisons, je passe les trois quarts de mes journées au téléphone. J'ai besoin de calme et de concentration. Or, nous avons du plancher dans notre local. Je travaille dans un clapotis incessant de talons. Cette pièce résonne de manière invraisemblable. C'est pire qu'une trompette. Je pense qu'il faudrait remplacer le sol par une moquette.
Mais c'est débile. Chut, non mais c'est débile.
Je voudrais juste qu'on prenne en considération ma demande. C'est pas compliqué quand même.
Bien. Alors notons la réclamation à l'ordre du jour.
Ouais, je voudrais dire quelque chose.
J'avais levé la main.
Non. Je dis juste.
On avait dit en début de réunion.
Comme vous le savez, je crois que ce projet d'organisation collective, ce n'est pas seulement réinventer un mode de fonctionnement. Je crois aussi que c'est réinventer un mode de société, un mode avec de la solidarité, avec de la justice sociale.
Mais moi, je veux bien, Xavier, mais le monde autour de toi, tu fais quoi avec le monde
Hervé,
autour de toi?
Est-ce que je peux m'exprimer, s'il vous plaît?
Madame la Présidente, il peut s'exprimer.
Moi, je suis la Présidente.
Mais oui,
du tout.
Vas-y.
Moi, j'essaie juste d'organiser un petit peu les choses.
Je l'avais dit, c'est l'anarchie.
Évidemment, c'est l'anarchie. Avec des
s'il vous plaît,
comme ça,
je peux aller jusqu'au bout de mon idée.
Une idée, c'est une utopie.
Eh bien, peut-être, Hervé, peut-être que c'est
moi
ça que je propose.
Il y aura toujours des meneurs pour se faire applaudir et mener les foules et pour prendre le rôle du patron. Exactement ce que tu es en train de faire là.
Non, ne me touche pas.
Monsieur le philosophe marxiste-léniniste s'énerve.
Malgré certaines dissensions, un système coopératif avait été adopté pour repenser un monde dont beaucoup, apparemment, ne voulaient plus.
Mes chers camarades, aujourd'hui, le capital détruit le travail. Le capital détruit nos vies. Le capital détruit nos territoires et notre planète. Ainsi, nous avons décidé de lutter. Nous avons décidé de réfléchir autrement pour que le peuple se relève, pour que la force aille à la force, pour que la volonté aille à la volonté et pour que le pouvoir aille au pouvoir. Oui, ensemble, nous avons enfin réussi à devenir notre propre patron. Oui, ensemble, mes chers camarades, ensemble, mes chers amis.
Avec tout ça, nous n'avions pas échappé à une importante vague de médiatisation.
En direct dans 3, 2...
Il y avait eu des caméras.
Bonjour, monsieur Hervé Le Berquier.
Et des journalistes.
Alors, ben, faut vous dire, hein, ici, c'est vraiment une sacrée belle aventure humaine. Hein, c'est tout un projet de vie. Enfin, voilà, c'est tout un collectif humain, hein, on pourrait dire, soudé autour d'un amour, en fait, d'une passion, parce que c'est un métier de passion. C'est une attention, c'est un amour, c'est une histoire d'amour.
Et ils nous avaient filmés dans notre travail, nos processus de décision. Nous étions devenus une sorte de modèle et d'espoir aux quatre coins du pays. Malheureusement, cet enthousiasme n'était pas partagé par les lois du marché, comme disait Hervé. Selon notre coutume de délibération, nous avions alors décidé d'organiser une vaste campagne de démarchage plutôt atypique.
Non, moi je me suis fait un sandwich.
Cela afin de trouver de nouveaux clients pour booster nos commandes et rattraper notre déficit.
Bon appétit.
Merci.
T'as l'air heureux, dis donc.
Les démarchages.
Ah bon?
Ça s'est plutôt bien passé.
Ah, bah c'est bien.
Ouais, ça? À Pôle emploi.
À Pôle emploi?
Et après j'ai fait le tour des administrations.
Ah, parce qu'on avait
pour
parlé
pour les cantines
des...
de personnel. Mmh. Et le service impôt a l'air assez intéressé.
Ah bon?
Et vous, de votre côté?
Ouais, j'ai pas pu y aller, mon gosse était malade.
Toujours une bonne excuse, hein, celui-là.
Ouais, c'est pas grave, hein, Jérôme.
Pas grave? Eh, hey, on est dans la merde, et tout le monde donne pas pareil, et là, c'est pas grave.
Mais parce que tout le monde ne peut pas donner pareil, Hervé. Entre les célibataires et les gens qui ont des enfants à charge, je suis désolé, ils peuvent pas tous donner
c'est
pareil.
C'est vrai. Enfin, moi, ma femme, elle me fait la gueule. Elle me parle même presque plus.
Non, mais si tu réfléchis comme ça, Jérôme, tout le monde fait son 9-17, le minimum syndical, le petit bisou le matin, et personne doit rien à personne.
Écoute, les démarchages, en plus d'une semaine complète, sans être payé plus, c'est difficile à accepter.
Si au moins il y avait le petit bisou le matin.
Je dis bonjour, Nathalie.
Enfin, Jérôme, là, on parle d'un déficit de 150 000 euros, là. Enfin, tu crois pas qu'il faudrait réfléchir un petit peu?
Je crois pas que c'est quatre pauvres démarchages qui vont changer les choses.
Ouais.
J'ai toujours dit bonjour le matin.
Y a pas tort.
Je fais toujours le tour avant de m'asseoir à mon ordinateur.
Enfin, ça arrive à tout le monde, Marie-Ève, de plus dire bonjour.
Mais je dis bonjour.
Ça va, Marie-Ève, c'était une blague.
Pour combler le déficit grandissant, et en plus de nos démarchages, nous avions décidé d'économiser sur nos charges de chauffage. L'hiver approchait pourtant, et une certaine fatigue, proche de l'usure, s'était peu à peu installée dans nos rangs. Chacun de nous mesurait maintenant l'écart existant entre le rêve et la réalité.
Moi, j'attrape froid en faisant le démarchage.
Bon. On a encore perdu 2 clients.
Quoi?
Oui, pour 12 centimes. À la résurrection, c'est ce qu'ils économisent par barquette repas avec AgroChina.
Ça a toujours été des chiens, les maisons de retraite.
Franchement, s'appeler la résurrection pour une maison de retraite, c'est quand même un peu glauque.
AgroChina, ils respectent pas les conventions collectives,
si au moins,
c'est pour ça.
On n'attrapait pas tous la
Mais crème. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? On est en train d'abandonner.
Non.
C'est ça qu'on est en train de faire.
Mais c'est du chien. Che Guevara est en super forme.
Après quelques semaines, la situation s'était encore dégradée. Et nous avions commencé à avancer certains arguments un peu extrêmes.
Drogue, voilà, c'est grave. Mais quoi? Je réfléchis tout haut. C'est vrai, on avait un peu picolé, mais mon cousin s'y connaît vachement bien, alors. Et puis, il connaît nos problèmes. Alors, si on est intéressé, il y aurait
moyen de discuter.
Voilà.
Attends.
C'est pas un peu risqué.
Vendre de la drogue, c'est ça, hein, c'est ça, hein.
Oui.
Tu planes complètement, là.
Moi, je viens d'une famille très croyante.
Pratiquante.
Tout le reste était déjà très dur à accepter.
Mais oui, je sais.
Mais là... Là, En même temps, c'est vrai. Comme tout le monde, je dors plus beaucoup.
J'avoue que le conditionnement en barquette pour ce genre de choses, ben, ce serait pratique au moins. Enfin, je sais pas, ça pourrait fonctionner.
Mais vous allez pas prendre en compte le fantasme éthylique du cousin détraqué de Nathalie, quand même. Oh, pourquoi vous dites rien, là?
Ça va aller, Marie-Ève.
Hervé!
Moi, je sais plus, Xavier. Parce que ça fait un moment que j'ai perdu toute prise sur ce qui se passe ici.
Marie-Ève, tu l'as dit que c'était pas possible d'un point de vue éthique.
Je sais pas. Je voudrais juste m'endormir. Alors, le temps que je récupère, j'entends rien, je vois rien. Je reste muette comme une tombe, d'accord?
Après que nous ayons accepté cette proposition un peu farfelue, nous avions rencontré le cousin de Nathalie, qui nous avait laissé, il faut dire, une impression plutôt mitigée. Nous nous étions ensuite relayés par groupe de deux, en pleine nuit, à l'intérieur de carrières ou de lieux de culte désaffectés.
T'en veux combien ?
C'est combien ?
Assez étrangement, Marie-Ève s'était sentie très à l'aise dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.
Ah, c'est combien d'abord ?
Ta gueule ! C'est 5000 pour 200 G.
Non.
Je m'en fous. C'est de la bonne frappe. T'en veux combien ?
Pour d'autres, par contre, il n'était pas toujours évident de garder toutes ses facultés de discernement.
Je suis désolée.
Qu'est-ce qui se passe, Nathalie ? Il est 3h du mat, là.
Ça pouvait pas attendre demain matin ?
Ça, c'est l'équipe B. Les merdes, c'est toujours avec l'équipe B.
Je suis désolée. Je suis désolée.
Mais quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe, là ?
Vas-y, Jérôme, moi, je peux pas.
Apparemment, Nathalie s'est gourée dans la livraison et Marie-Ève, elle a rien vu.
Comment ça ?
Il y a un colis spécial qui a été envoyé à un client pas spécial.
Oh, putain ! Et comment c'est possible ?
Je suis désolée.
C'est parti à quelle heure ?
Avant-hier.
Oh, putain !
C'est sans doute déjà arrivé.
Oh, putain, putain !
Moi, toutes ces nuits avant, ça me décale et après, je sais plus où j'en suis.
Et c'est qui, ce client pas spécial ?
Monseigneur, là, jette du clergé Saint-Benoît.
Oh. Et l'entreprise fournit les clergés, maintenant ?
C'est Marie-Ève, c'est elle qui a eu l'idée pour la couverture.
Je suis vraiment...
Ta gueule, Nathalie, s'il te plaît !
Finalement, nous n'avions jamais reçu de nouvelles de ce colis égaré. Marie-Ève avait beaucoup prié en ce sens, et apparemment, cela avait fonctionné. Nous avions donc poursuivi nos activités et réalisé en 2 mois la moitié de notre chiffre d'affaires annuel. Et ce qui devait être provisoire s'était peu à peu installé dans le temps. À l'ordre du jour de cette nouvelle réunion...
Oui, j'ai Marie-Ève. Enfin reçu les échantillons de moquettes.
C'est vraiment le moment de parler de ça ?
Ça a été voté.
Bien. Donc que chacun fasse part de son choix, Marie-Ève. Point suivant.
L'entreprise a aussi reçu une invitation pour participer à un séminaire de management alternatif.
Et quoi, ça ouais,
oh,
avoir la moquette,
et c'est
ça
où ce séminaire ?
Moscou.
Moscou.
Quoi ? Moscou.
Ah !
Moscou est le management alternatif.
Oui, enfin, pas sûr.
Bien. La suite.
Oui, alors, pour les comptes. Oui, bon, désolé de casser l'ambiance. Mais j'ai fait le calcul 4 fois sur le dernier transport. Et ben, soit je me suis trompé 4 fois, soit il y a quelqu'un qui a gardé de la camelote sous le manteau.
Pardon ?
À partir de ce moment, un climat de suspicion générale s'était installé entre nous. Peu après, le cousin de Nathalie nous avait rendu une visite impromptue.
Ça va ? Vous êtes bien, bande d'enculés ? Un peu humide, quand même.
Oui.
Alors, on va se dire comment que je vais plus revenir vous emmerder. Primo, vous allez me renflouer, rapport à ce que vous m'avez chouré. Mettons que j'aime pas vraiment ce qui s'est passé, ça a comme brisé un putain de lien de confiance et niqué mon image à marque.
Mais... disons que s'il y avait un dédommagement supplémentaire, je serais comme prêt à passer l'éponge.
À condition de ne plus revoir vos sales gueules. Si la personne responsable de ce RD n'a pas les couilles de se montrer, vous pouvez toujours vous cotiser. C'est votre délire, non ? Ça va aussi pour toi, Nathalie.
Malgré l'investigation d'Hervé, nous n'avions jamais élucidé la question du vol de marchandises. C'était à se demander si le cousin de Nathalie décidément plus malin qu'on ne le pensait, s'était joué de nous depuis le début. Quoi qu'il en soit, nous l'avions remboursé jusqu'au dernier sou. Il avait dit qu'il ne voulait plus jamais nous voir. Nous avions donc arrêté nos cargaisons de nuit. Certains, je crois, l'avaient regretté. D'autant que nous avions reçu le soir même un appel de Monseigneur Jette, qui désirait connaître l'origine divine de cette marchandise, reçue il y a quelques mois, comme tombée du ciel. La mort dans l'âme, Marie-Ève avait répondu que...
Oui, monsieur, c'est une erreur. Monsieur, je viens de vous dire, c'est une erreur. Vous n'avez pas fait le bon numéro.
Dans ces circonstances, nous avions décidé de nous rendre à ce symposium de management alternatif à Moscou. J'avais été désignée à l'unanimité et à vrai dire, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de faire ce voyage dans un pays... comment dire ? Là-bas, j'avais rencontré un groupe d'investisseurs dont la particularité était d'aider les entreprises comme nous qui traversaient des moments difficiles. Les investisseurs disaient vouloir repenser les logiques destructrices de notre monde. Le soir, nous avions été dans des bars de nuit. L'un des Russes m'avait offert à boire en disant la nécessité d'opérer des choix constructifs, de transformer mes rêves en réalité et non l'inverse. Il m'avait proposé un accompagnement sur mesure. Nous avions ensuite dansé. Puis, à l'aube, il m'avait proposé un marché. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, j'avais dit « Nous n'avons pas le choix. » Je crois que c'était la vérité. Je crois que tout le monde savait que c'était la vérité. Finalement, nous avions repris le travail comme nous l'avions toujours connu par le passé. C'est ainsi, je crois, que l'histoire s'achève. Tout était redevenu comme avant. Enfin, à quelques exceptions près.
Oui, c'est un peu dur.
Bonjour. Enfin, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux ce soir pour célébrer ma nomination à la tête de cette entreprise chargée d'histoire. Nous avons connu quelque chose de formidable. Une utopie. Diront certains, ou un rêve éveillé.
On a le droit de rêver, non ?
Mais la vie, vous le savez autant que moi, ce n'est pas un rêve. Je me souviens aujourd'hui du papa qui, oui, je sais, n'était pas vraiment le mien, mais au contact duquel j'ai appris le goût de l'effort, de la volonté qui crée cette capacité de faire et d'être. Alors ce soir, nous allons nous écouter pour pouvoir parler de tout ça, pour pouvoir, je l'espère, repartir du bon pied, comme on dit. Je vous invite donc à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, de manière franche et très directe, en sachant qu'ici, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, il y a juste vous. Alors, qui se lance ?
C'était « Ne pas mourir, être frappé » de Laurent Plumens. À la réalisation, Émilie Maréchal. Avec les voix de Mariana Blanmoya, Pedro Cabanas, Yannick De Coster, Joe Deuzer, Nicolas Lusson, Émilie Maréchal, Catherine Mestoussis, François Prodhomme, Nathanaël Vandersmissen. Musique originale et montage, Luc Bercier. Prise de son, Elliot Ratino. Script, Mariana Blanmoya. Renfort script, Lia Dubac. Mixage, Aurélien Lebourg. Bruitage, Fanny Roy. Prise de son bruitage, Joachim Glaude. Parrainage, Christophe Rowe. Une production de la compagnie Droit dans le mur, avec l'accompagnement de l'atelier de création sonore radiophonique et le soutien du Théâtre National, du Fonds d'aide à la création radiophonique et du Fonds Gulliver. Un appel à la création radiophonique soutenu par la RTBF, la SCAM et sa CD France et Belgique, et la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à Carmelo Iannuzzo et Bastien Hidalgo-Ruiz de la CSR.
Gymnastique sonore, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez entendu « Vie et déclin d'une famille marchande » de Émilie Maréchal. Pour retrouver toutes nos émissions, rendez-vous sur canalb.fr et pour en savoir plus sur notre association Bande Magnétique, retrouvez-nous sur les réseaux. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.